L'instant aime ça passe vite et ça en dit.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
C'était en 1984 dans la revue Débat. Pierre Nora s'entretient avec Alain Decaux. Les deux hommes se connaissent de longue date. Nora, l'universitaire, tenant de l'école des Annales, exerçant à l'école des hautes études. Decaux, le visage et la voix, plus de 30 ans de radio et de télé derrière lui. D'un côté, l'histoire scientifique, de l'autre, l'histoire médiatique. Decaux était devenu l'homme en qui s'incarnait l'histoire aux yeux des Français, écrira Nora 30 ans après, au moment de réimprimer l'entretien. Petit texte vivant, brillant, stimulant, qui contribua sans doute à réinsérer Decaux le médiatique dans la communauté des scientifiques. Pierre Nora y met pourtant en lumière les tenants du récit médiatique, sa fonction sociale à l'heure où s'appauvrit l'enseignement de l'histoire, mais aussi ses travers et ses raccourcis. Bonjour Pierre Nora.
Bonjour.
Vous avez rejoint en 2001 Alain Decaux à l'Académie française. C'est la mort de votre ami, il y a quelques mois, qui vous a poussé à rééditer chez Gallimard, l'histoire médiatique.
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
La terreur et la vertu, 17 octobre 1964.
Tout ce que j'ai fait, ce fut en pensant à son œuvre et à lui. Je ne tolérerai pas que les corrompus et les athées viennent arrêter cette grande œuvre de régénération. La révolution ne sera vraiment faite en France que le jour où la France aura retrouvé Dieu, pas le Dieu des prêtres, mais l'être suprême, annoncé par l'immortel Jean-Jacques. L'être suprême qui règne sur la nature et l'humanité. C'est ainsi que nous parviendrons à l'unité et à la fraternité universelle.
Maximilien Robespierre.
C'est très amusant. Hein, voilà.
Réinventé par la caméra, explore le temps. Oui, absolument. Des sujets qu'il a traités dans Alain Decaux raconte et avant dans la caméra explore le temps, les Cathares par exemple, vont être des sujets déterminants pour l'identité du pays et que Alain Decaux finalement va explorer les attentes du public et du téléspectateur.
C'est vrai, mais je pense qu'il suivait son propre cours personnel et qu'il était assez indifférent au fait que ce soit de très grands sujets ou de moins grands sujets. Il faisait ce qui lui plaisait, point. Et ça m'intéressait beaucoup d'explorer avec lui, parce que à l'explorer, on voit les immenses contraintes qui pèsent sur ce genre et qui en font un genre non pas du tout méprisable, mais très à part du genre de la production historienne de type classique.
Alors, genre très à part, dont en réalité vous égrenez un à un les leviers, les tenants et les aboutissants. On écoute un extrait du Jaurès d'Alain Decaux en 1978.
Oui.
Le 31 juillet 1914, à 21h40, Jean Jaurès s'est attablé au Café du Croissant à l'angle de la rue Montmartre. Il fait très chaud, il fait très lourd. Alors, au Café du Croissant, on a laissé ouvertes toutes les fenêtres. Et Jaurès, sur sa banquette, est justement assis devant une de ses fenêtres, le dos à la fenêtre. Et entre la rue et lui, il n'y a qu'un rideau. Il est là, il achève de dîner. Et tout à coup, une main soulève ce rideau. Deux coups de feu. Jaurès s'incline en avant. Il s'affaisse doucement comme un homme qui va dormir.
Pierre Nora, vous le pointez dans votre texte.
Oui. Vous avez choisi un passage extraordinairement éclairant.
Oui.
Tout est dit là-dedans. Le moment clé où le destin bascule et où l'histoire va devenir histoire. La dramatisation, il faisait chaud, on a ouvert les fenêtres, le temps à telle heure, Jaurès s'est attablé, etc. La passion, d'une certaine façon, l'investissement de l'orateur dans sa propre histoire.
Tout ce qui creuse le fossé entre l'histoire médiatique
Évidemment.
Et l'histoire scientifique. C'est ce que vous expliquez très bien dans ce texte, c'est-à-dire que vous dites finalement l'histoire médiatique, elle s'en tient à la dramatisation de l'histoire, elle est esclave de cette focalisation sur l'événement dramatique.
Oui, et puis elle est transmetteuse et elle n'est pas productrice. En principe, l'histoire dite scientifique, bien qu'il y ait de très bons transmetteurs et de mauvais scientifiques, mais en soi, l'histoire scientifique consiste à produire du savoir. Et l'histoire médiatique à le transmettre et à savoir le transmettre.
Donc l'historien et vous, vous n'hésitez pas à employer dans cet entretien le terme de vrai historien. Vous dites le vrai historien, c'est celui qui fabrique son événement historique. L'historien médiatique, c'est celui qui le récupère d'une certaine manière déjà prédigéré.
Il est secondaire. S'il n'y avait pas au départ production d'un savoir, encore que l'histoire médiatique, et d'ailleurs Decaux me le fait remarquer, quand il avait fait l'histoire de Blanqui, il avait eu toute une correspondance inédite, par exemple, qui était une forme de production de savoir. Il n'empêche que même cet inédit qu'il arrive à produire conserve un caractère en général anecdotique. Tandis que, précisément, l'historien, disons, scientifique, entre guillemets, consiste au contraire à déplacer son sujet, à chercher ce qui est derrière son sujet et qui l'explique. Ça n'est pas de l'histoire, si j'ose dire, au premier degré, qui décline la forme dans laquelle cet événement a été vécu et transmis par la mémoire collective. Ce qui est le propre de l'historien dit médiatique.
Alors l'historien médiatique, vous l'expliquez là aussi assez longuement et assez de manière très approfondie, vous dites que finalement il met en scène des épisodes qui participent d'une forme mythologique de l'histoire, qu'il en reconduit la charge mythologique en tout cas,
oui.
Et que par cela il fait le contraire de l'historien dit scientifique.
Il fait le contraire, j'irais même un peu plus loin. Et ce que vous avez fait entendre sur Jaurès le prouve. Decaux prend le moment à sa dramatisation intense. Mm-hmm. Je lui avais demandé comment il raconterait, par exemple, le 68. Et il m'avait dit, je parle du discours de De Gaulle. Disant, je dissous l'Assemblée, etc. Où il s'en va, où tout est suspendu, on ne sait pas où il est, la France est défaite. Et puis à partir de là, je refais l'histoire en flashback, si j'ose dire. Et du coup, ben, s'il faisait César, c'est probablement au moment où le poignard de Brutus va le tuer. Et je lui avais dit, mais la forme du récit, finalement, donne l'impression que toutes les histoires se ressemblent, finalement, alors que l'historien, encore une fois avec des guillemets, dit scientifique, cherche au contraire à montrer la relativité des temps, leurs différences, le fait qu'on ne pensait pas la même chose à toutes les époques. Et là encore, il me fait une réponse qui est très intéressante. Quand je lui fais cette objection, il me dit « Mais croyez-vous que ce soit si différent ?» Et que au fond, l'homme n'est pas toujours un peu le même, et que de Tacite à Michelet, au fond, les passions sont les mêmes, les émotions sont les mêmes. Je ne le crois pas. L'homme n'est pas le même.
Alors parlons justement de l'homme et de sa passion, et écoutons un extrait de son Garibaldi en 72.
Nous allons parler ce soir de Garibaldi. Et avant d'aborder ce personnage hors mesure, je voudrais vous dire deux mots simplement d'un grand ami de Garibaldi, qui fut Alexandre Dumas. Pourquoi Garibaldi ? Eh bien, parce que c'est un personnage qui, personnellement, me hante depuis très longtemps, et puis parce que je me suis rendu compte depuis longtemps aussi qu'on ne le connaît pas.
Et là aussi, il y a tout. Il y a Dumas et l'influence de l'histoire, évidemment, romantique et romancée.
Romanesque.
Et romanesque. Et puis, il y a l'idée que Garibaldi est un personnage qui le hante. Et Alain Decaux vous dit, Pierre Nora, pour moi, il est essentiel que je sois passionné. Il est essentiel, comme disait ma mère, j'ai besoin de mettre mon cœur dehors. Et là, vous dites, mais c'est précisément toute la différence avec le travail de l'historien scientifique.
Oui. Ça n'est pas que l'historien dit scientifique ne soit pas passionné, mais il est passionné différemment. Il ne s'identifie pas à son sujet. Il travaille le décalage. Il travaille au fond un ethnologue, si j'ose dire, qui a une distance par rapport au sujet. Du coup, l'historien de type médiatique établit une sorte de lien de filiation entre son sujet et lui-même. Je me suis toujours inspiré d'une phrase de Paul Venn. Il faut s'intéresser à l'histoire de France, pas parce qu'on est français, mais parce qu'elle est intéressante. Et bien, je dirais un petit peu de tous les sujets. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a beaucoup de sujets que l'histoire médiatique, tout simplement, ne peut pas traiter.
Ne peut pas
il
traiter.
Il l'aborde lui-même.
Et vous lui
quand
dites,
lui
vous ne pourriez pas faire l'histoire de l'alimentation, de la mort, de l'habitat.
L'histoire de l'hygiène, l'histoire du
mais lui,
corps.
Mais lui, vous dit, c'est, franchement, c'est pas mon job.
Exactement.
Voilà. Franchement, ça n'est pas mon job. Ça n'est pas mon job. Et alors, en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que, un petit peu plus loin dans votre texte, Pierre Nora, dans cet échange, vous mettez un petit peu d'eau dans votre vin, si je puis dire. Alain Decaux est-il un instituteur cathodique? Écoutez la façon dont il raconte les cathares. On est en 1966.
Avant que commence notre émission, voici comment se présentait la France. Vous le voyez, c'est effroyable. Les Anglais sont partout. Le royaume de France, le voici. Au moment où commence notre émission, c'est Philippe Auguste qui règne. Philippe Auguste est un roi merveilleux, un roi admirable. Dès la première année de son règne, et il est monté sur le trône à 15 ans, il a commencé à vouloir arrondir son appartenance, comme on disait alors. C'est-à-dire qu'il a voulu arracher aux Anglais d'abord, aux Allemands ensuite, certaines terres qu'il estimait devoir appartenir au royaume de France.
C'est un moment bien particulier, ce moment où vous vous entretenez avec Alain Decaux. On est au début des années 80, 20 octobre 1979. Alain Decaux, dans le Figaro magazine, fait paraître cet article. On n'apprend plus l'histoire à nos enfants. Il est devenu un fervent défenseur de l'apprentissage de l'histoire à l'école et à la petite école. Et vous, vous dites, Pierre Nora, Decaux apparaît comme un substitut à la défaillance des programmes scolaires. Il ne complétait pas l'école, il l'a remplacée.
Oui, c'est vrai, demandez aux gens un peu plus âgés que vous, Sonia de Villers, ils ont beaucoup appris de 7 à 77 ans en écoutant Decaux. C'était ça leur apprentissage de l'histoire à beaucoup d'égards. Et puis effectivement, Decaux a été un porte-parole extraordinaire de l'école qui, depuis les années 80, était en train de faillir un peu à sa mission de scolaire proprement dite et pédagogique et historienne et civique. Donc, d'une certaine façon, il l'a complété. Est-ce que je dirais la même chose tout à fait aujourd'hui? C'est pas évident. Je pense que le problème ne se situe peut-être plus tout à fait comme il se situait il y a une trentaine d'années. Mmh. Et là encore, c'est à certains égards un historien de la mémoire et de la mémoire collective que je vais vous parler. Nous sommes très sensibles aujourd'hui à la valeur historienne du témoignage de mémoire, plus que nous n'y étions il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, où nous récusions précisément la mémoire au nom de l'histoire, et où la mémoire nous paraissait un phénomène subjectif, illusoire, trompeur, momentané, mobile, qu'il fallait au fond chasser comme un bon flic ou un enquêteur chasse le simple témoignage ou le recoupe, ou l'enquêteur, si vous voulez, le recoupe. Aujourd'hui, je crois qu'on ferait une part plus conséquente à la mémoire en étant sensible au fait que l'histoire a des limites, et que seul probablement cet investissement de mémoire est capable de restituer quelque chose du vécu que l'histoire ne pourra jamais.
Mais déjà en 84, c'est déjà en 84 dans votre texte.
Ah bon ?
Mais oui, vous dites il ne saurait y avoir de pure histoire savante. Vous le dites déjà en 84, vous dites finalement que vous reconnaissez ce cordon affectif au passé qui est la mémoire, et que si on le coupe, et finalement il n'y a plus de sens à l'histoire. Donc il y a déjà à travers la figure d'Alain Decaux, son travail et son investissement affectif, quelque chose qui vous emmène dans cette voie-là.
Oui, probablement, et c'est pour ça que ça m'avait déjà intéressé. Donc, il y a une transformation qui, malgré tout, peut-être y étais-je sensible, et merci de me le faire, de m'en faire crédit, il y a 30 ans, mais je crois que depuis 30 ans, ça s'est beaucoup transformé.
Alors vous, l'historien de la mémoire collective, justement, vous le dites aussi, vous étiez passionné par ce personnage populaire et national qui était devenu Alain Decaux, parce qu'il avait su, écrivez-vous, établir avec les Français de tous âges, de tous milieux, de droite comme de gauche, un contact d'une intensité extrêmement naturelle, finalement évidente. On va écouter un extrait du Louise Michel d'Alain Decaux pour savoir finalement de quelle gauche était Alain Decaux, et s'il était de gauche, on était en 1979.
Au nom du socialisme, le goulag, l'extermination, la torture,
Et maintenant, au nom du socialisme, le génocide. Mais si elle était là, Louise Michel, que dirait-elle? Nous l'avons trahie, Louise Michel. L'humanité a trahi les espoirs de l'humanité du 19e siècle. Et nous n'avons pas à être très fiers de nous, croyez-le. Holocauste, extermination, univers concentrationnaire, qu'avons-nous fait? Alors elle a rêvé, Louise Michel. Alors Louise Michel était inutile. Alors ce combat était inutile. Il ne faut pas croire ça. Je crois qu'il faut qu'il y ait, à toutes les époques de l'humanité, des gens qui se lèvent, qui dénoncent, qui crient, qui appellent. Il faut une Louise Michel.
Bon. Vous avouerez qu'il était sympathique.
Ah ben c'est éblouissant. Mmh. C'est éblouissant, c'est très très émouvant en plus, oui, d'entendre ça. Hein. C'est très très émouvant. Vous êtes,
oui,
vous-même ému,
oui, oui, oui,
au moment où vous entendez, oui, les paroles de votre ami. Vous vous dites que lui, il était l'homme de la synthèse, finalement, Alain,
oui,
Decaux, d'une,
oui,
certaine manière.
Oui, c'était cette
manière.
Gauche hugolienne, cette gauche du 19e siècle, progressiste, optimiste, croyant à l'avenir radieux, finalement, et en dépit des malheurs, de l'avenir radieux de l'humanité, d'une certaine façon. Et en ce sens, il était, il avait un espèce de sens commun très français. Ça me frappait. Je pense que c'est ce caractère très français qui séduisait, ou que les gens sentaient du point de vue de la mémoire, mm-hmm, si vous voulez. Cet homme aux doigts levés, avec ses lunettes et à travers lesquelles il regardait au fond des cœurs chacun des téléspectateurs, et sachant établir effectivement cette espèce de lien affectif extraordinaire. Et en effet, c'est cette homme de la synthèse, ce français de gauche moyenne, si j'ose, mm-hmm, dire, qui n'était pas communiste, qui n'était pas un vrai socialiste, mais qui était une sorte de Hugo, d'ailleurs, dont il a écrit la grosse biographie. Et il était un hugolien dans l'âme. Et qui gardait... D'abord, il ne faut pas oublier aussi qu'il était très croyant. Et c'était un homme et dont je pense que l'optimisme est presque l'euphorie jusqu'au bout, puisque je l'ai vu jusqu'au bout, tenait à cette profonde chrétienté.
Mais finalement, c'est quelqu'un qui a démarré sa carrière dans un milieu quand même plus que conservateur, très réactionnaire. Il est dans son entourage.
Oui, mais il était...
Mais c'est pas... Il a eu une trajectoire assez parallèle
fils,
de celle de François Mitterrand, finalement.
Instituteur. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que, voilà, Mitterrand en avait fait un ministre de la francophonie.
Merci beaucoup, Pierre Nora. Alain Decaux, Pierre Nora, c'est l'histoire médiatique, c'est votre entretien dans la collection Le Débat chez Gallimard. Merci,
Sonia de Miller. Merci.